Philippe Ducharme, notre vulgarisateur scientifique. Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va bien. Bonjour François, ça va bien, merci.
Ça va super. On a aujourd'hui des sujets qui sont, parfois, on les imagine pas reliés ensemble. L'obésité, un facteur de risque dans la dégénérescence maculaire.
Oui. Absolument, absolument. Donc, pour parler de cette découverte-là intéressante, en fait, cette avancée-là intéressante, on va quand même prendre quelques temps pour définir c'est quoi la dégénérescence maculaire. Donc, on va résumer ça essentiellement avec c'est une détérioration d'une toute petite zone au centre de la rétine, donc ce qui tapisse le fond de l'œil. On appelle ça la macula, donc maculaire, macula, le lien est là. Lorsque ça se détériore, ben c'est en fait, la macula est responsable de la vision très précise. Là.
Oui, c'est tout à fait devant nous, là, quand on fait des voilà. trucs, quand on fait du petit point, par exemple.
Voilà.
Très la dentelle. Hein?
C'est
voilà.
ça. Et lorsqu'il y a des lésions qui s'accumulent au niveau de la macula, ben, ça entraîne une perte, évidemment, de la vision centrale, ce qui va se manifester sous forme de taches sombres au niveau de la vision des personnes qui sont atteintes de ça.
C'est quand même courant, la dégénérescence maculaire.
Oui, absolument, c'est ça. C'est quand même la principale cause de handicap visuel chez les personnes de 50 ans et plus. Donc, c'est quand même assez majeur, faut en tenir compte. Hein. Et évidemment, il y a de la recherche qui se fait là-dessus. Les causes sont pas tout à fait, sont encore un peu floues, mais jusqu'à ce jour, on a quand même, la recherche a montré qu'il y a certains gènes et leurs variants qui, lorsqu'ils sont déréglés ou subissent des mutations, ben ça augmente le risque de dégénérescence maculaire, mais ce n'est pas la cause unique en soi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme le mode de vie ou l'environnement.
D'accord. Et quand on parle de mode de vie aussi, ça peut amener à avoir des problèmes de surpoids ou d'obésité. Et c'est là qu'il y a un lien auquel on ne s'attendrait pas, parce qu'on va faire souvent le lien entre des gens qui ont un surpoids avec, mettons, le diabète. Ou les maladies cardiovasculaires.
Voilà, oui, tout à fait.
Mais pas les maladies de l'œil.
Ben, en tout cas, ici, on a donc une équipe de recherche dirigée par le professeur Mike Sapia, chercheur en maladies neurovasculaires oculaires à l'Université de Montréal, qui apporte donc une meilleure compréhension du lien qu'il y a effectivement entre l'obésité et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et là, donc, je vous amène dans la façon dont ils ont mis ça en évidence.
On s'en va chez les souris.
Oui, tout à fait, exactement. Donc,
il y a toujours des souris dans vos histoires.
Ben oui.
Souvent.
C'est souvent comme ça, c'est ça. Donc, ils ont, en quelque sorte, induit ce qu'on appelle une obésité transitoire. Ce que ça veut dire, c'est que pendant un certain nombre de semaines, on va donner une diète riche en gras aux souris, tellement qu'elles vont même tripler au niveau de leur poids.
Oh là là, OK.
Et c'est pas rien.
On parle d'un surpoids, on parle de morbidité, là.
Probablement. En tout cas, quelque chose d'assez important, c'est clair. Puis, dans un deuxième temps, bon, on va leur redonner une diète plutôt normale, là, afin qu'ils reviennent un peu à leur état de départ, là, en termes de poids, par exemple. Là. Donc, c'est là où on dit qu'on a une obésité dite transitoire. Et là, ce qu'ils ont fait suite à ça, c'est qu'ils ont étudié, évidemment, au niveau biochimique, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y a eu, il s'est produit des modifications persistantes au niveau de l'ADN des cellules immunitaires de l'œil. Donc, les cellules qui sont là pour nettoyer l'œil, le garder en bonne santé, l'empêcher
d'éviter les infections, les troubles oculaires.
Oui. Donc, ces cellules-là ont subi donc des modifications importantes à tel point que là, elles se mettent à produire de manière un peu désordonnée, dérégulée, des molécules pro-inflammatoires. C'est là que la machine se retourne contre nous. C'est-à-dire que plutôt que de nous rendre service, nos cellules immunitaires de l'œil, ben, ils vont justement, par la production de ces molécules inflammatoires, ben, ça va, disons, favoriser l'apparition de petits vaisseaux sanguins dans l'œil qu'on appelle de l'angiogénèse rétinienne pathologique.
En fait, ça veut dire qu'angio, ce sont le réseau sanguin qui se...
Ouais.
Angiogénèse, donc on crée un réseau sanguin de rien dans la rétinite.
Exactement.
Et c'est pathologique parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas y être.
Exactement. Puis c'est ça que, pour cette raison-là, ben, ça augmente les risques de développer ou ça aggrave les
problèmes. Et ça, c'est dû à des mutations qui ont été provoquée par une obésité transitoire. Ça veut dire que même après avoir repris ce qu'on appellerait chez nous un poids santé, là, bien que ce soit assez relatif, les souris ont maintenant cependant déjà des cellules immunitaires de l'œil dont l'ADN a été modifié pendant cet épisode de surpoids morbide.
Absolument.
Et là, elles sont tout d'un coup plus susceptibles de faire de la macula.
Et voilà, exactement, c'est bien résumé. Puis, c'est pour ça que maintenant, on voit que le lien est un peu mieux compris entre l'obésité et les risques de développer la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Ouf. Restons du côté de l'œil.
Hein? Oui. Avec des nouvelles plus intéressantes.
Oui, de bonnes nouvelles, voilà.
Exactement. Donc, c'est très flyé, je trouve, en fait, cette découverte-là, ou en fait, cette technologie-là qui a été, disons, amenée un cran plus loin. Là, ici, je parle donc dans un contexte de gens qui vont souffrir, par exemple, de glaucome. Ouais. Une autre cause importante de perte de vision irréversible, là, puis qui peut toucher quand même plusieurs personnes. Là, on parle de près de 2% de la population de 40 ans et plus au Canada, par exemple. Puis, on résume ça essentiellement, glaucome, c'est une dégradation du nerf optique. Le nerf optique qui est le fameux câble qui permet d'acheminer l'information jusqu'au cerveau pour être décodée et comprise. Puis, l'ennui avec ça, c'est que c'est souvent, pas toujours, mais souvent associé à une pression intraoculaire, donc une pression dans l'œil qui est un peu trop élevée.
Et qui va écraser le nerf optique.
Voilà. Exactement, la longue, puis qui va créer justement ce dont on parle ici, le glaucome. Bon, il existe des traitements, là, c'est pas une fin en soi, là. Il y a des gouttes avec des médicaments à l'intérieur qui permettent de baisser la pression, mais ce que ça nécessite, c'est qu'il faut aller rendre une petite visite à l'occasion chez notre hôpital.
Oui, et c'est terrible, le glaucome, parce que ça fait pas mal au début.
Non,
il n'y a pas de douleur au début, ça fait pas mal. Donc, c'est important le dépistage. Parce qu'on peut souffrir d'un début de glaucome, on ne le sait pas. La pression de l'œil est trop élevée. Puis, d'ailleurs, dans le tiers-monde, c'est la cause de cécité la plus élevée parce que malheureusement, le dépistage là-bas est absent. Et on va chez notre opticien, notre ophtalmologiste. Là, il fait une mesure de la pression dans l'œil.
Exactement.
Mais là, maintenant, on peut faire ça à la maison ou bientôt.
C'est vers là où on s'en va, parce que c'est pas encore chez l'homme, mais ce qu'on peut dire de ça, c'est que c'est une lentille cornéenne, une lentille qu'on met sur l'œil. Elle a deux fonctions. Elle peut mesurer la pression intraoculaire. Ça existait déjà depuis quelques années, là. C'est pas tant nouveau, mais ce qui est vraiment fabuleux, c'est que cette lentille-là est équipée de petits réservoirs qui permettent de libérer un médicament en temps réel, le médicament qui va permettre de baisser la pression intraoculaire. Donc, c'est toute une technologie intégrée à même la lentille. Donc, ça permet de contrôler en temps réel la pression intraoculaire, puisque lorsqu'elle augmente, elle est immédiatement détectée par le capteur sur la lentille qui va à son tour se charger d'ouvrir le petit réservoir, si on peut appeler ça comme ça, libérer le médicament au niveau de l'œil. Puis
en temps réel, ça veut dire que si la pression commence à être trop élevée, il va y avoir un peu de médication qui va être libérée dans l'œil.
Voilà.
Et une fois que la pression devient acceptable, normale, on arrête le processus. Évidemment, c'est presque de la nanotechnologie.
Oui, ça en est, effectivement. Puis, pour l'instant, ça a été validé dans un modèle animal. Chez des lapins, on a induit artificiellement une pression élevée dans l'œil.
D'accord.
On a remarqué effectivement que ça corrigeait. Mais il faut maintenant aller valider ça chez l'humain. Là. C'est-à-dire
je comprends. Tout ça nous vient de Corée du Sud.
Oui, absolument. J'ai oublié de le mentionner. Tu as tout à fait raison. Donc, des chercheurs d'université en Corée du Sud là, qui ont amené cette nouvelle technologie-là. Là, vraiment, l'idée de libérer le médicament par la lentille, c'est vraiment ça qui est fabuleux, qui est assez nouveau, puis qui offre peut-être donc une possibilité de faire ça chez soi. On va pouvoir dorénavant...
Peut-être, un jour, tout à fait.
Oui, c'est ça, avoir un meilleur contrôle à la maison.
Parce qu'on avait parlé, il me semble, tous les deux, il n'y a pas si longtemps, d'insuline, de mesure de l'insuline et de libération. D'insuline dans le système pour permettre aux personnes qui vivent avec un diabète là, de contrôler leur maladie presque à leur insu.
Exact, c'est ça. Fait que c'est là où on s'en va. Finalement, là, on va être équipé à la maison pour faire face à des situations comme celle-ci, là, mieux gérer sa pression intraoculaire. C'est quand même fabuleux de voir ça.
Mais là, c'est pas les souris, c'est les lapins. Ben, bravo.
Oui,
bravo pour les lapins, parce que je pense que l'œil du lapin est peut-être plus proche du nôtre. Et puis,
possible, je sais pas.
Ben, je peux imaginer que mettre des lentilles cornéennes à des souris, là on parle vraiment de nanotechnologie. Voilà. Ben,
ouais.
on remercie les animaux qui souffrent en notre nom. ben, c'est vrai. Mais
ben oui.
Y a autre chose encore, un autre lien qui n'existait pas et qui pourtant vient d'être fait entre un médicament connu et des maladies qui parfois sont déroutantes.
Exactement. Donc, essentiellement, il y a un médicament en ce moment qui s'appelle l'amogrigine. Donc, c'est un médicament qui est connu pour être utilisé chez les personnes qui souffrent d'épilepsie, pour stabiliser les humeurs également aussi, chez les personnes bipolaires. Donc, dans ce cas-ci, ce sont des chercheurs allemands qui se sont rendus compte que ce médicament-là pouvait également diminuer certains symptômes associés à l'autisme, ce qui est assez nouveau, évidemment. Quand on regarde l'autisme, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être mis en cause, mais eux ont vraiment mis l'attention sur une protéine, MYT1L, c'est son petit nom.
Oui.
Qu'on peut dire d'elle, c'est qu'elle est un facteur de transcription. Donc, ça permet de réguler les gènes au niveau de l'ADN. Là, on les exprime ou on les exprime pas. Puis, si on a un modèle de souris qui ne peut pas, dont la protéine ne fonctionne pas, ben, on va se retrouver ultimement avec des comportements qui sont, disons, typiquement associés aux personnes qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme. Et lorsqu'on donne le médicament à ces souris-là dont la protéine ne fonctionne pas bien, ben, on vient renverser des effets. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve un comportement plutôt normal, c'est-à-dire on freine les comportements liés associé au trouble du spectre de l'autisme. Et puis, dans une autre partie d'étude, ben, au niveau des neurones humains qu'on peut cultiver en laboratoire, ben, on a vu que l'activité électrique des neurones était un petit peu plus normale lorsqu'on donnait ce médicament-là. Donc, ce sont des résultats qui, en somme, nous disent, ben, voici une autre option. Peut-être qu'on pourrait envisager ce médicament-là pour soigner ou du moins réduire les symptômes associés à l'autisme chez ces personnes-là.
Parce que c'est un médicament qui est déjà couramment utilisé. Alors,
oui,
son prix est entre guillemets raisonnable. On ne parle
absolument,
pas d'une médication
oui,
de pointe.
Point. Effectivement, très peu cher à l'achat. Fait que c'est pour ça aussi que ça a peut-être une autre belle alternative. Voilà.
Bon, alors c'est encore un bon coup des souris.
Oui, toujours.
Hein? on va mettre ça sur le compte des souris. Ben, merci beaucoup, Philippe. Aujourd'hui, l'obésité et la dégénérescence maculaire, il existe un lien. On peut peut avoir l'espoir qu'un jour la pression intraoculaire sera non seulement mesurée, mais en plus médicamentée par des lentilles cornéennes intelligentes.
Oui.
On va dire ça comme ça. Et puis pour terminer, il y a des médicaments dont l'usage est assez courant pour les situations d'épilepsie qui peuvent peut-être avoir une application pour les gens qui ont des troubles associés au spectre de l'autisme. Voilà.
C'est bien ça.
Ah, une bonne journée. Merci.
Pas
On se repart. Merci, Philippe.
Bien. Ça fait plaisir. Bye-bye.